affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Nous sommes un certain nombre en France à aborder les prochaines élections, échéances électorales avec une certaine perplexité. Nous sommes un certain nombre à nous désespérer du spectacle qui est donné par la scène politique. Nous sommes un certain nombre à souhaiter un renouveau. Nous sommes un certain nombre à être étreints par la nostalgie. Nous sommes un certain nombre à considérer qu'auparavant, la scène politique avait plus de relief. Nous sommes peut-être atteints d'un mal commun décrit par notre invité de ce jour. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Alain Duhamel, qui partage, je crois, ce diagnostic, mais qui, dans un même mouvement, il décèle peut-être des penchants liés à notre identité, à notre histoire et contre lesquels il faudrait lutter. Alain Duhamel, merci d'être dans notre studio et d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Vous êtes l'auteur, vous êtes bien sûr éditorialiste, essayiste. J'ose à peine vous présenter tellement tout le monde vous connaît. Vous êtes éditorialiste, essayiste, membre de l'Institut et vous venez de signer un ouvrage titré « Les pathologies politiques françaises ». Ces pathologies politiques françaises, ce sont peut-être celles qui m'étreignent moi-même lorsque je m'inquiète de la tournure que prennent les événements politiques. Y a-t-il de cela ?
Écoutez, ça c'est possible. Je pense qu'un certain nombre de Français, ou d'observateurs de la France, qui enregistrent les pathologies dont je parle et le cas échéant s'en inquiète. En même temps, je le dis d'entrée de jeu, je pense que ces pathologies sont anciennes, qu'elles sont enracinées dans notre histoire, qu'elles ne sont pas non plus, elles n'ont pas le monopole de l'influence. Il est possible de les combattre et dans certains cas, il est possible de les surmonter. Donc, ça n'est pas un livre apocalyptique de plus et ça n'est pas un exercice, comme j'en entends quasiment quotidiennement, de déclinisme collectif. Au contraire, j'essaye de mettre en avant des traditions, des comportements, des caractères français ancrés dans l'histoire et d'essayer de comprendre pourquoi en France. Et puis d'ailleurs, on peut tout à fait se poser la question que vous esquissiez, est-ce que c'est réellement spécifique aux Français ou pas ?
Peut-être faut-il nommer ces pathologies pour commencer. Donc je les cite. Inconstance, déclinisme, égalitarisme, nationalisme, conservatisme, extrémisme, intellectualisme, discorde. Ce sont, selon vous, les traits de caractère politique des Français.
Ce sont les handicaps politiques français. Ben, on a aussi des qualités à côté de ça. Il y a en politique en France, il y a des qualités d'imagination, il y a des qualités de novation. Aujourd'hui, on a le sentiment que ce n'est pas exactement cette phase-là, mais ça a beaucoup existé dans l'histoire. La France a souvent été pionnière en matière politique, en matière démocratique aussi. Et on a de vraies qualités. Les Français ont un esprit critique qui a des côtés négatifs, mais qui a aussi des grands côtés positifs en matière démocratique, par exemple. Les Français sont imaginatifs, ils sont peut-être trop rêveurs, mais ils sont imaginatifs. Les Français sont souvent audacieux. Moi, j'aime beaucoup la définition que je cite, je pense, à deux ou trois reprises dans le livre de celui qui est mon auteur favori. C'est pas très original, mais qui est Tocqueville. Et en particulier, l'Ancien Régime et la Révolution, parce qu'il s'adresse plus spécifiquement à la France et qui définit le peuple français comme brillant et dangereux.
Le plus brillant et le plus dangereux d'Europe.
D'Europe. Et à l'époque, ça voulait dire du monde, hein, dans l'esprit de Tocqueville. Bon, je crois que c'est très vrai, que ça l'était et que ça le reste.
Est-ce que vous me permettez de lire les premières lignes de l'introduction de votre livre ? Parce que je pense qu'elle pose très bien le débat et les relations un peu ambivalentes que vous avez vous-même, comme chaque Français, avec sa propre identité, non ?
Allez-y.
La France a été durant deux siècles le paradis de la politique. Elle en est devenue aujourd'hui le purgatoire. De la Révolution à la fin des années 80, la politique a brillé ici de tous ses feux comme nulle part ailleurs. C'est en France qu'ont été proclamés les droits de l'homme, que fut expérimenté en premier le suffrage universel masculin, que sont les notions de gauche et de droite. Toutes les formes de régime s'y sont succédées. Chaotique dans le monde, révolution, monarchie, consulat, empire, despotisme. Il n'a manqué à la liste que la théocratie. Je poursuis. 15 constitutions ont été adoptées tour à tour, record du monde. Les débats d'idées les plus fameux s'y sont tenus, notamment au XIXe siècle. Les intellectuels engagés y ont conquis une place exceptionnelle, sans commune mesure avec celle de leurs homologues des nations voisines. Les citoyens n'ont pas été en reste, votant en masse, manifestant en nombre, allant parfois jusqu'aux émeutes et aux soulèvements. Les hommes d'État de premier plan n'ont pas manqué. Le personnel politique a longtemps drainé l'élite de la nation. La France contemporaine s'est forgée à travers la politique qui a fait l'histoire et promu le peuple. Cette France-là semble désormais appartenir à un temps révolu. Vous parlez de pathologie, docteur, quel terrible diagnostic.
Je pense que si on veut exercer une fonction critique et essayer d'inciter à certaines améliorations, il faut commencer par dire les choses. Le propre d'une thérapeutique, c'est de commencer par un examen clinique. Alors moi, j'ai fait l'examen clinique, et puis ensuite, c'est aux politiques de trouver les thérapeutiques. Chacun son rôle. Moi, je suis un essayiste, un analyste. J'utilise l'histoire comme matériel, la littérature aussi. Donc, je souligne des défauts, des faiblesses, des rétrogradations, quelquefois. Bon, mais ensuite, c'est aux politiques de trouver les recettes.
Voilà. En même temps, lorsque vous essayez de trouver de sonder les causes de ce mal profond et que chacun ressent, comme je l'ai esquissé en introduction, tous n'en mourraient pas, mais tous sont atteints. Et nous-mêmes, probablement que cette lutte contre cette pathologie n'est pas seulement un phénomène social qui intéresse tout le monde. Ça se passe au sein de chacun d'entre nous, et on le sent d'ailleurs en lisant votre ouvrage. Votre ouvrage n'est pas un réquisitoire implacable. On sent que souvent vous avez une forme de... Voilà, c'est ambivalent.
J'ai de la tendresse pour les Français, mais c'est une tendresse dépitée. Ça existe, la tendresse dépitée.
Mais c'est peut-être le sentiment commun, non ?
C'est vrai que j'ai connu directement des phases politiques plus glorieuses que celles d'aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on remonte l'histoire, il est évident, un débat, en gros, sous Louis-Philippe, ça avait un relief intellectuel totalement inimaginable aujourd'hui. Et il y avait encore, dans les grandes années de la Troisième République... Même pendant l'entre-deux-guerres, où pourtant la Troisième République était déclinante, mais il y avait encore des batailles homériques au Palais Bourbon entre des très grands orateurs, Herriot, Léon Blum, Tardieu, Paul Reynaud, etc., qui vraiment poussaient non seulement les analyses, mais les propositions à des niveaux qui aujourd'hui nous paraissent inaccessibles. Au début de la Ve République, j'ai encore connu des grands moments politiques, évidemment. Aujourd'hui, les choses sont moins glorieuses qu'elles ne l'ont été. Mais alors là où je me différencie totalement des déclinistes, c'est que je trouve qu'il ne faut pas confondre une phase et une pente. Alors on est dans une phase de déclin du politique en France, c'est une évidence. L'image des politiques est détestable, l'image de la vie politique est détestable, les partis sont déconsidérés, les journalistes politiques sont déconsidérés, l'information en règle générale est déconsidérée. C'est comme ça, disons, depuis une trentaine d'années, mais ça s'accentue régulièrement. Bon, mais c'est une phase, et cette phase n'a rien d'irrémédiable. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, la vie politique française n'aura pas été rénovée. Évidemment, ça, il faut être réaliste. Ça commence par des résultats économiques positifs. Bien sûr, c'est un préalable. Enfin, c'est un préalable que nos voisins sont capables d'atteindre, donc il n'y a pas de raison que nous n'y parvenions pas.
Dans ce déclin du politique, ce qui est très original dans votre ouvrage, c'est que voilà, des analyses sur le déclin du politique, les liens avec la mondialisation, qui dépossèdent quand même un petit peu les politiques de leurs prérogatives.
Qui limitent leur marge, oui.
Oui, c'est-à-dire que c'est quand même un métier un peu difficile aujourd'hui d'être politique. Quand on avait tous les leviers en main...
Alors, en France, en plus, où on a on avait historiquement la révérence de l'État et du pouvoir politique... Le fait est que être aujourd'hui aux commandes, ça ne peut pas être une partie de plaisir, parce que c'est vrai que la mondialisation limite les marges d'autonomie, et notamment en matière de politique économique, donc sociale. C'est vrai que l'Europe, qui est à mes yeux le meilleur bouclier et la principale chance, n'en est pas moins aussi un carcan dans bien des domaines, et est tombée d'ailleurs dans un certain nombre de défauts typiquement français qu'elle n'était pas obligée d'imiter, comme la multiplication des textes, des normes, etc., dont on sait très bien que la plupart pourraient être évitées et n'ont absolument pas besoin de dépendre de Bruxelles, pourraient parfaitement rester nationales, voire locales. Bon, tout ça est vrai, et de même la financiarisation, par exemple, quand vous avez des milliers de milliards de dollars qui se promènent, évidemment, le titulaire du ministère des Finances est peu de choses à côté de ça. Bon, tout ça existe. Bon, et s'y ajoutent des défauts spécifiquement français,
oui,
comme l'inconstance, la querelle, etc., que ne connaissent pas, en tout cas pas dans ces proportions, les peuples qui nous entourent. Donc, il y a une situation pour les politiques beaucoup plus difficile qu'avant. Et en même temps, s'y ajoutent les travers français qui compliquent encore ce que connaissent nos voisins et qui expliquent en partie pourquoi on ne parvient pas en France à prendre des décisions que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne et a fortiori des pays qui étaient terriblement touchés, comme par exemple l'Irlande, ont eu le courage de faire avec efficacité.
Alors le premier de ces défauts, c'est le premier chapitre de votre livre, c'est l'inconstance.
Bah ça, je crois qu'elle est vraiment facile à démontrer. La France, depuis la Révolution, la France va d'inconstance en inconstance. Comme vous le releviez, on a eu 15 régimes. 15 régimes, ça veut dire 15 drames ou 15 révoltes ou 15 guerres perdues, enfin ça dépend des cas, mais en tout état de cause, c'est une preuve d'insatisfaction prodigieuse, mais aussi d'instabilité prodigieuse. Bon, ensuite, à l'intérieur de chacun des régimes, la pente de l'inconstance finit toujours par l'emporter. Alors évidemment, là, de ce point de vue, le plus caractéristique, c'est la Ve République, puisque la constitution de la Ve République a été imaginée par le général de Gaulle justement pour combattre l'instabilité et rétablir la primauté de l'exécutif, qui était une tradition française, d'ailleurs contestable par certains aspects, mais enfin qui existait. Bon.
Oui, puis qui apportait des fruits.
Et qui apportait certains fruits à certains moments, absolument. Mais enfin, le fait est qu'en France, l'exécutif dispose de prérogatives qui n'existent pas dans les autres pays et que ça soulève aussi des problèmes. Enfin, ce n'est pas la question. La question est, l'objectif du général de Gaulle, c'était la stabilité. Et dès que ça n'a plus été le général de Gaulle, la stabilité a disparu. En réalité, ça s'est déjà esquissé sous son deuxième mandat. Mais enfin, ça a pris des proportions depuis. Et on sait très bien que maintenant, depuis 1978, toutes les élections ont été perdues, sauf l'exception de Nicolas Sarkozy en 2007. Bon, mais qui est réellement une exception. Autrement, systématiquement, les majorités étaient battues. Bon, bah, c'est une preuve d'inconstance difficilement contestable. Et il y a des alternances dans les autres pays. Mais il ne faut pas confondre alternance et inconstance. Oui, l'inconstance, c'est une alternance mécanique. Une alternance mécanique, ça limite là aussi beaucoup la marge des politiques, parce que pour qu'une politique réussisse, il faut du temps et de la durée. En France, on n'a jamais de temps et de durée.
Alors justement, vous soulignez à cet égard deux choses qui sont effectivement extrêmement symptomatiques. C'est que vous dites, en France, contrairement aux autres pays, toute personne qui est élue, son sort, c'est d'être battue aux prochaines élections.
Oui, un élu est un battu. Voilà. Un élu est un battu virtuel.
Mais c'est encore pire. C'est qu'on ne vote plus pour des gens, on vote contre le précédent.
Oui.
Alors, il n'y a plus d'enthousiasme pour le suivant.
C'est vrai.
On vote contre.
Mais ça, je ne jurerais pas que ce soit spécifiquement français, mais c'est particulièrement bien enraciné en France. Le fait de voter contre. En France, maintenant, on a des votes de rejet. Alors, bon, là aussi, il y a quand même un élément important qui est que c'est faute de bons résultats économiques. Parce que s'il y a rejet, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas de bons résultats économiques. Bon, mais en même temps, c'est un cercle vicieux, puisque comme il n'y a pas la durée, ceux qui seraient tentés par une politique courageuse ont peu de chances de la réussir à la fin d'un mandat.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème institutionnel aussi, quand même, parce que vous parlez de durée, mais cette Ve République qui devait donner de la stabilité, Elle a démarré avec un mandat présidentiel de 7 ans. Aujourd'hui, on a 5 ans. Dans l'année qui va suivre l'élection, il y a forcément législative, mais enfin, celles-là sont gagnées, oublions-les. Mais ensuite, il va y avoir des départementales, des régionales, des sénatoriales, des municipales. Et donc, ce pauvre président de la République est quand même aussi le chef d'une majorité. Il est quand même soumis, quand même, à ce piège de devoir avoir des résultats à court terme.
Mais en France, on considère toujours le président de la République comme quelqu'un tenté par des abus de pouvoir. En réalité, il est toujours menacé par des insuffisances de pouvoir, c'est l'évidence. La situation actuelle l'illustre, mais ça n'est pas seulement le cas de la situation actuelle. Ça a été le cas des présidences qui se sont succédées depuis le général de Gaulle, en réalité.
Depuis après, vous voulez dire ?
Depuis le général de Gaulle, après le général de Gaulle, oui.
Oui, après, oui, voilà.
Dès Georges Pompidou.
Oui, voilà.
Voilà, Georges Pompidou, il a commencé par vouloir faire évoluer les Français dans le sens de l'Europe et ça n'a pas été un succès. Et il a cherché à passer au quinquennat, il n'y est pas parvenu, d'autres y seront parvenus. Mais enfin, il n'est pas arrivé à imposer sa volonté comme il l'aurait voulu. Bon, et depuis, ça n'a cessé de croître.
C'est-à-dire que face à ce trait national qui est l'inconstance et qui est effectivement difficilement contestable, votre exposé de ce point de vue empêche toute contestation, il y a quand même des solutions, et peut-être une solution institutionnelle que nous esquissions. Est-ce qu'on est des institutions adaptées à un peuple aussi inconstant et ombrageux ?
On peut tout à fait imaginer, par exemple, que, puisque c'est un sujet qui commence à revenir un peu, on peut tout à fait imaginer qu'on en revienne, par exemple, qu'on en vienne à un septennat non reconductible. Ça serait imaginable. Ça donnerait un peu plus un horizon plus tranquille, et ça aurait aussi un avantage secondaire qui est que si on sait qu'on n'a pas à se représenter, on peut prendre des décisions plus énergiques en sachant que, de toute façon, on a la légitimité pour les mettre en œuvre. Mais moi, je suis pour cette solution-là. Mais j'étais contre il y a 10 ans, hein, honnêtement.
Alors,
mais
à l'expérience... Curieux, c'est que, voilà, en vous écoutant, expliquer qu'en fait, le président manque de pouvoir, mais on continue à en parler comme d'un monarque. Donc, effectivement, le risque serait qu'il soit omnipotent. Mais c'est peut-être ça aussi, on attend trop du politique. On le voit toujours comme omnipotent, mais ce n'est pas le cas.
Ça, c'est aussi un des problèmes français, c'est qu'on a adoré la politique, qu'on a finalement considéré que l'État devait donner des réponses à tout et que dans la société contemporaine, l'État donne de moins en moins de réponses. Il en donne encore beaucoup, bien entendu, mais infiniment moins qu'il y a 50 ans. Je veux dire, à la Libération, le général de Gaulle a pu mettre en place la sécurité sociale. Aujourd'hui, dès qu'on veut faire une réforme qui touche à une des branches de la sécurité sociale, tout le monde est dans la rue, les sondages dégringolent et les pouvoirs de blocage deviennent pratiquement insurmontables. C'est d'ailleurs pour ça que je suis pour un mandat unique.
Il y a peut-être une nuance, c'est qu'à l'époque, il s'agissait de construire la sécurité sociale. On était dans ce fil, quand même, de société politique, étatique. Alors qu'aujourd'hui, lorsque les politiques agissent, c'est plutôt pour déconstruire ce modèle.
Pas seulement. On peut, par exemple, s'il s'agit des retraites, on peut parfaitement remplacer, enfin, en théorie en tout cas, rien ne s'y oppose, la retraite à la française, par répartition, par exemple, par une retraite à points, comme c'est le cas dans les pays scandinaves, où ça marche très bien, où ça ne coûte pas plus cher, où les gens savent en permanence exactement ce que pourront être leurs exploits, et où ils peuvent même, du coup, proportionner leur durée de travail aux exigences qu'ils ont pour leur retraite, ce que je trouve tout à fait sain.
De façon plus générale, vous l'esquissez dans votre livre, l'histoire de la France, Dès les Capétiens, c'est une histoire de construction étatique, d'un État-nation. Le politique est extrêmement présent. Est-ce que l'âge de la mondialisation, qui est celui de la dissolution du politique, finalement, est-ce que les Français n'ont pas raison de penser, comme ils sont nombreux à le faire, que ce nouveau monde et ce nouvel environnement leur est totalement étranger à leur tradition, étranger à leur être.
Alors, il y a deux choses. Il y a la question de savoir si l'univers dans lequel ils entrent est l'univers auquel ils sont accoutumés, voire l'univers qu'ils espèrent. Bon, ben là, c'est évident. Et pour le coup, c'est là aussi spécifiquement français. J'en parle longuement dans le livre, d'ailleurs. Les Français entrent dans le 21e siècle à reculons. ils n'aiment pas la mondialisation, ils aiment moins l'Europe, ils se méfient de ce qui est nouveau, ils détestent la révolution numérique, ils n'acceptent pas des remises en cause. Ils n'aiment pas le 21e siècle, c'est un fait, j'espère que ça va leur passer.
C'est une des pathologies que vous décrivez, c'est le conservatisme.
Absolument. Oui, bien sûr, c'est exactement ce que je décris dans le conservatisme. Bon, et ça, c'est un handicap, surtout par rapport aux pays voisins, parce que ça aussi, c'est une particularité. C'est vrai que la France a été un modèle du pouvoir et de la politique historiquement. Ça nous a donné une haute idée de nous-mêmes, qui est d'ailleurs, qui a été justifiée, mais qu'aujourd'hui, on a du mal à remettre en cause. Bon, mais le fait que la politique en France, que l'État en France ait joué un rôle absolument déterminant pendant 10 siècles, ne signifie pas qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait de changement. Ça ne veut pas dire que le pouvoir politique n'a plus de rôle. Le pouvoir politique a un rôle d'abord d'incarnation de la solidarité nationale, c'est essentiel. Et en dehors de l'incarnation, il peut avoir un rôle, il doit avoir un rôle de régulation. C'est déjà pas mal si on arrive à faire ça, à incarner et à réguler. En revanche, on ne peut être ni omnipotent, ni omniscient, ni a fortiori infaillible.
Il vaudrait mieux le dire, alors.
Il faudrait mieux le dire pendant les campagnes présidentielles, c'est-à-dire avant. Bon, mais enfin, il faut bien dire aussi que quand on est candidat à la fonction suprême, si on commence par expliquer qu'on sait qu'on est peu de choses et qu'on ne pourra pas beaucoup peser, c'est assez peu mobilisateur. Donc, d'où la prime aux rêveurs, comme le sont les extrémismes dont je parle assez longuement, qu'il s'agisse de Mélenchon ou qu'il s'agisse de Marine Le Pen, ils préfèrent proposer ce qu'eux considèrent comme des rêves, qui sont en fait des utopies, pour ne pas dire des chimères, et qui seraient une catastrophe si on appliquait leur recette. Mais il n'empêche que il y a déjà, pour écouter uniquement les extrémistes de gauche et de droite, vous avez en France déjà pratiquement 45% des électeurs. Record du monde.
Oui. Et au-delà, le titre d'un hebdomadaire couru cette semaine, Le Point, pour ne pas le nommer, c'est « Peut-on être élu sans dire n'importe quoi ?»
Oui.
Bonne question.
Ça. Oui, mais ça, c'est, je dirais que pour le coup, c'est ce que... On dit en France depuis que la démocratie existe. Hein, il y a toujours eu ce côté un peu ironique, distant. Mais les politiques... Je ne dirais pas qu'ils n'ont plus du tout d'utilité, je dirais qu'ils ont encore plus d'utilité qu'avant, mais avec moins de pouvoir. D'où la nécessité d'avoir des gens ayant encore plus de qualité qu'auparavant. Et le problème, c'est que comme aujourd'hui, être un homme politique, c'est être fustigé en permanence, c'est soulever des oppositions sans arrêt, c'est se faire traiter réellement de tous les noms, c'est avoir un mode de vie épouvantable. La représentation la plus démagogique que je connaisse, c'est « Ah, ils ont le palais national, ils ont des huissiers, ils ont une voiture ». Ça leur sert à quoi quand ils se lèvent à 6 heures du matin, qu'ils se couchent à minuit et qu'entre-temps, tout le monde les engueule ? Je veux dire, le résultat, c'est que la classe politique française, et notamment au sommet, au pluriel, c'est-à-dire le haut du haut de la classe politique française, ceux qui sont présidentiables, premiers ministrables, ministrables dans les grands ministères, sont d'un niveau aujourd'hui inférieur à ce qu'ils étaient avant, parce que les meilleurs qui avant, ça j'ai étudié ça, j'ai même fait un cours à Sciences Po là-dessus, les meilleurs qui auparavant, par nature en France depuis des siècles, ça remontait pour le coup aux légistes. Hein, les légistes, on a une bonne expérience de ça. Hein. Aujourd'hui, les meilleurs vont dans le secteur privé parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent. Je ne dis pas qu'ils ont toujours des horaires faciles non plus, ni qu'ils n'ont pas de responsabilité, mais ils ne se font pas insulter en permanence. Ils gagnent bien plus d'argent et ils sont plus maîtres d'eux-mêmes.
Plus de prestige même.
Et ils ont souvent plus de prestige, absolument. Et en plus, ils ont les mêmes voitures en mieux. Les politiques aujourd'hui, malheureusement, ce sont souvent des gens de seconde catégorie parce que les meilleurs sont dans le secteur privé.
Mais est-ce que ce n'est pas précisément parce que justement on est arrivé dans un âge un peu post-politique ?
Parce que d'une part, la politique se transforme, d'autre part, qu'elle est plus difficile, qu'elle est plus instable, donc avec moins de chances de réussite. Mais ça, après tout, ça n'est pas écrit. Hein, on peut se stabiliser aussi. On a eu des périodes de stabilité dans notre histoire. Donc il ne faut pas dire qu'on en est incapable, on n'en est pas incapable. Bon, et à partir de ça, il faut avoir la chance d'un programme réaliste à un moment où les circonstances aident à le mettre en œuvre. Le problème, c'est qu'on a déjà eu plusieurs fois des circonstances qui aidaient à le mettre en œuvre, mais que ça ne s'est pas fait.
Et donc ?
Bah et donc que les gens en veulent à la politique tout en contribuant beaucoup à l'échec de la politique. Parce que c'est ça la réalité. Les Français sont furieux contre les politiques. Et comme ils sont furieux contre les politiques, ils diminuent leur pouvoir et leur influence. Donc que les politiques ont encore moins de chances d'y arriver. Et c'est quelque chose qui est assez regrettable. Alors ça n'existe pas dans tous les pays d'Europe. Mais on l'a bien vu récemment aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Ça n'est pas non plus un monopole français.
Oui, nous n'en avons pas l'apanage, c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà.
La période actuelle pousse quand même à une forme d'instabilité, de rancœur, d'inquiétude.
Et de populisme,
oui,
à l'échelle occidentale.
Oui, voilà. Mais le populisme est une C'est-à-dire réponse à cette situation où on est dans l'angoisse, l'inquiétude, les repères s'effondrent.
Le populisme est à la fois une conséquence et une cause. Les deux à la fois. Et les dirigeants ont des responsabilités et les électeurs aussi ont des responsabilités. Ce que personne ne dit jamais, parce qu'évidemment, ce n'est pas très populaire de dire ça. L'idée, c'est de dire les électeurs sont des gens vertueux qui sont forcément des victimes. Et les coupables sont forcément les politiques. Ben, la réalité, c'est que c'est des deux côtés. Quand les politiques ne sont pas courageux, ce qui est souvent le cas, mais ils sont plus souvent intelligents que courageux et plus souvent compétents qu'énergiques et opiniâtres, à ce moment-là, il faut le leur reprocher. Et ça, c'est fait abondamment. On ne peut pas dire que ce pays manque de critiques. En ce qui concerne les électeurs, personne ne leur dit « Vous avez eu tort de voter comme ça, maintenant c'est bien fait pour vous ». On ne va pas leur dire ça quand même. Et le problème, c'est que c'est un mal français, mais que c'est aussi en partie un mal occidental. Mais ça, c'était parce qu'on est dans une phase de grande métamorphose. On a en ce moment une révolution numérique, qui est aussi importante qu'a pu être la révolution mécanique. Donc, dans ces cas-là, il y a forcément énormément de remises en cause. Les remises en cause, ça fait des victimes. Ça, il ne faut pas dire qu'il n'y aura pas de victimes. Il y aura des victimes, ça continuera, ça n'est pas français, et aucun gouvernement ne pourra l'empêcher, pour le coup. On pourra soigner les victimes, on ne pourra pas empêcher qu'il y ait des victimes. Bon, on est dans cette phase-là.
C'est certain qu'avec un discours tel que celui-là, personne ne sera élu.
Personne ne sera élu, ça, je suis bien d'accord. Cette pente-là, au bout de 40 ans de crises de nature différente, mais successives, 40 ans de chapelet de crises, ça provoque évidemment dans les peuples libres, qui sont les seuls qui peuvent critiquer et exprimer leurs critiques, une vague de populisme qui traverse l'Occident, qu'on vient de voir avec l'élection de Donald Trump, qu'on a vu avec le Brexit, et qui menace qui est au pouvoir en Hongrie ou en Pologne, en France, qui le sera peut-être en Autriche.
Oui.
Enfin, en Autriche, heureusement, le président a très peu de pouvoir.
Mais
quand même,
c'est un symptôme important.
C'est un signe. Oui, c'est un signe. Et on ne peut pas dire que ça n'arrivera jamais en France. On n'en sait rien.
Dans ce tableau général, on sent que des qualités basculent. Toutes les pathologies dont vous parlez peuvent aussi avoir une face lumineuse.
Mais bien sûr.
C'est ça qui est formidable.
Bien sûr, parce que l'esprit critique, par exemple, d'une certaine manière, c'est paralysant. Un gouvernement qui fait une proposition, c'est un gouvernement contesté, automatiquement. Bon. Il n'empêche qu'un peuple qui a l'esprit critique, c'est un peuple éveillé.
Et démocratique.
C'est une grande preuve de démocratie. Et qu'en matière d'esprit critique, je crois qu'on ne craint la comparaison avec aucun autre peuple. Donc, c'est vrai qu'il y a en France un vrai instinct démocratique. Mais en même temps, quand il y a une vague populiste, l'esprit démocratique et la vague populiste, ça n'est pas la même chose.
On peut s'amuser à voir la face lumineuse de chacune des pathologies.
Oui, si vous voulez.
L'inconstance.
L'avantage de l'inconstance, c'est que ça peut aider, ça peut être un accélérateur de changement.
Le déclinisme.
Le déclinisme, c'est difficile d'y trouver des qualités, mais enfin, disons que ça peut être aussi une forme...
L'envie de progrès, peut-être.
...de clairvoyance. Ça peut être une forme de clairvoyance. Bon, puis c'est un fait qu'il y a des domaines dans lesquels on décline. Donc, c'est bien de le dire.
L'égalitarisme.
L'égalitarisme,
c'est facile, ça.
Oui, ça, l'égalitarisme, c'est le blocage des blocages, mais en même temps, c'est l'appel, le grand désir, la ferveur même de la solidarité, des mêmes chances pour tout le monde, etc. C'est pas en soi, l'égalité en soi, ça n'est pas du tout un mauvais objectif. Le mauvais objectif, c'est quand ça devient un blocage permanent.
Le nationalisme.
Le nationalisme, ça, en soi, c'est porteur de danger. Mais si c'est une forme de patriotisme exacerbé à un moment où on est menacé, un peu de patriotisme peut être nécessaire. On l'a vu pendant les guerres mondiales.
Oui, ou même un patriotisme tranquille qui consiste à avoir le souci des autres, de sa société, des siens.
Patriotisme tranquille, c'est à mes yeux assez antinomique. Patriotisme tranquille, si. Mais nationalisme tranquille,
oui,
non.
Patriotisme tranquille.
Ah bah patriotisme, bien sûr. Oui. Patriotisme, c'est oui. Au contraire. C'est une nécessité, le patriotisme.
Oui, c'est assez naturel, vous le dites à plusieurs reprises, d'ailleurs.
Bah, oui, et puis c'est notre histoire, pour le coup. On a, là aussi, on a... le patriotisme français a existé avant les autres patriotismes européens. Mais
Contre les empires.
Mais, bien sûr, mais il y a d'ailleurs des motifs. Bon, le fait que la France était... Mais ça n'était pas le seul pays dans lequel ça se soit passé. Mais un grand théâtre d'affrontement, ça y a poussé. Mais il y a aussi des choses comme le fait que pendant la Révolution, la France ait inventé la conscription. Donc que c'était le peuple tout entier qui devait se lever pour défendre le pays. Ça crée évidemment quelque chose qui n'existait pas quand nos adversaires de l'époque avaient tous des armées de métier.
Les pathologies suivantes sont le conservatisme, l'extrémisme et l'intellectualisme.
Alors le conservatisme, s'il s'agit d'être fidèle à des valeurs, c'est très bien. Là où c'est moins bien, c'est si ça empêche de s'adapter à de nouvelles circonstances à notre détriment. Mais en soi, moi, je comprends très bien qu'on soit un traditionnaliste, qu'on soit attaché à des valeurs et même qu'on ait la nostalgie du passé parce que c'est dans le tempérament des gens qui trouvent toujours que leurs grands-parents, c'était quand même tellement mieux.
Oui, et puis le présent ou l'avenir n'est pas forcément mieux juste parce qu'il est le présent ou l'avenir.
Non,
parfois, il y a des régressions, ça peut arriver.
Bien sûr que ça peut arriver, mais... il y a des périodes, par exemple pendant les guerres, où on a tous les inconvénients sans aucun avantage. Là, on est plutôt dans une période où il y a des inconvénients, mais où il peut y avoir aussi des avantages.
Oui.
Parce que si on se métamorphose, ça peut être aussi à notre bénéfice.
Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que quand on suit une période comme celle des Trente Glorieuses, il peut être assez naturel d'avoir la nostalgie des Trente Glorieuses.
C'est absolument vrai, mais je me dépêche, je me hâte de préciser que pendant les Trente Glorieuses, la Sofres faisait un sondage annuel pour vérifier l'état de satisfaction ou d'insatisfaction des Français, et que, alors que c'est le moment où le pouvoir d'achat a augmenté le plus vite, et le moment où les Français ont pu enfin disposer des équipements ménagers qui étaient inaccessibles avant, donc où leur niveau de vie et leurs conditions de vie se sont formidablement améliorées pendant 30 ans, à l'époque, ils répondaient que leur niveau de vie baissait et qu'ils étaient pessimistes.
Incorrigible français.
Bah oui, on est comme ça.
Mais rétrospectivement, il n'en est pas moins qu'une
époque. Ah bah maintenant,
où...
ils trouvent que les Trente Glorieuses, c'était formidable, mais on a l'admiration posthume en France.
Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, des tas d'hommes politiques qui étaient extrêmement critiqués passent pour des géants.
On adore Jacques Chirac, qui était horriblement impopulaire. On considère que Mitterrand était un grand homme alors qu'il y avait des manifestations d'un million de personnes dans la rue contre lui, etc., etc. Bien sûr.
La dernière pathologie, c'est la discorde. C'est plus difficile.
C'est la pire. C'est la pire parce que, d'abord, elle est de tradition en France. Alors ça, c'est un fait. Bon, c'est une banalité de le rappeler, mais enfin, commentaire sur la guerre des Gaules de César, le thème, considérant les Gaulois, c'était aussi une façon, lui, de montrer ses mérites particuliers, bien sûr. Mais enfin, le thème, c'était « Les Gaulois sont les plus valeureux des guerriers, les plus brillants des tacticiens. Heureusement qu'ils se battent tellement entre eux qu'ils annihilent leurs forces et qu'on peut les battre. » Bon, mais c'est resté vrai. C'est resté vrai. Bon, sous l'Ancien Régime, il ne faut pas du tout croire que l'Ancien Régime était un régime serein et unitaire. Les Armagnacs et les Bourguignons, ça a été horrible. Protestants et catholiques, ça a été épouvantable.
La Fronde.
La Révolution, les Révolutions, etc. Bon, et même dans les phases de paix, même dans les phases de prospérité, même dans les phases de relative stabilité, ça arrive de temps en temps quand même, heureusement, eh bien, les Français se querellent, ils sont comme ça. Alors évidemment, si la querelle prend une dimension nationale, c'est-à-dire que si ça oppose les Français à un autre peuple, à une autre nation, là, il peut y avoir un phénomène de solidarité. La solidarité en France, c'est quelque chose de bizarre, parce qu'elle est instinctive, elle est puissante, elle est réelle, on l'a bien vu au moment des attentats, il y a une solidarité populaire, instinctive, qui existe. Et c'est à peine fini, les gens ont été généreux et mobilisés pendant 2 semaines, et la 3e semaine, tout le monde recommence à se diviser en sectes antagonistes, comme si tout nous opposait, ce qui est complètement ridicule, puisque l'essentiel réunit les Français, évidemment.
Mais est-ce que c'est discorde ? Est-ce que cet intellectualisme, voire même cet extrémisme, n'est pas aussi le signe d'un peuple passionné, imaginatif ? Dans les premières pages de votre livre, c'est admiratif, vous parlez des 15 constitutions... c'est aussi quelque chose, un bouillonnement effroyable, mais dont il sort des choses qui sont lumineuses.
Que les Français soient audacieux, qu'ils soient imaginatifs, qu'ils soient ambitieux. Ambitieux collectivement. Bon, tout ça est vrai et tout ça est bien. Le problème est qu'il ne faut pas que ce soit littéralement annihilé par des défauts, des travers qui existent et qui peuvent l'emporter, en tout cas pendant une phase. Mais c'est bien sûr que les Français ont des qualités particulières. Mais la France aussi, d'ailleurs. C'est pour ça que moi, je suis totalement antidécliniste. Quand il y a eu des attentats français, les attentats français ont été horribles, mais il y avait eu des attentats horribles aux États-Unis, il y en avait eu à Madrid, il y en avait eu à Londres, etc. Il ne s'est jamais produit ce qui s'est produit avec la France. C'est-à-dire que, brusquement, on a vu le monde entier accourir à Paris. Ça veut dire qu'on est quand même porteur de quelque chose. Et qu'on a quand même une image, on a des défauts, bien sûr, on a des adversaires, mais il y a quand même un prestige français, il y a une forme de grandeur, il y a une histoire, et le peuple français a des très grandes qualités. Pour prendre un seul exemple, qui n'est pas prosaïque du tout à mes yeux, en ce qui concerne, on dit toujours les Français ne travaillent pas assez. Bon, c'est vrai que sur l'année, ils ne travaillent pas assez. Sur l'année. Bon, je ne dis pas ça à tout le monde, ni tout le temps, mais... Sur l'année, c'est incontestable. Mais en revanche, ils ont un des trois premiers taux de productivité du monde. Alors ça prouve qu'ils ont quand même non seulement des qualifications, mais des qualités professionnelles qui sont de très haut niveau. Donc on a un tas d'atouts à jouer. Mais encore faut-il qu'on ait les moyens de les jouer. Et oui, là, c'est là où on retrouve les querelles, l'instabilité, etc.
Oui, c'est une remarque... totalement de détails, mais c'est la durée légale du travail qui est faible en France, mais c'est pas la durée réelle.
Ça dépend. Si on additionne tous les critères, c'est-à-dire la durée hebdomadaire, c'est-à-dire la durée des vacances, c'est-à-dire les arrêts maladie, les conditions des arrêts maladie en France par rapport aux autres, etc. Donc on arrive au bout du bout, c'est-à-dire au nombre d'heures effectivement travaillées dans l'année. On est nettement au-dessous de la moyenne. On est dépassé par tous nos voisins. Alors on peut dire, c'est la preuve qu'en France, le progrès social a été, etc., une réussite.
Aussi.
Bon, c'est aussi ça. Mais bien sûr que c'est aussi ça. Mais simplement, en ce moment, ce dont on a besoin, surtout, c'est que la croissance progresse. Parce que c'est la clé de tout. Et la croissance, il faut des conditions économiques et il faut des conditions politiques.
Je vais me faire l'avocat du diable.
C'est ce que vous faites depuis le début.
Bah oui. Non, pas seulement. J'ai beaucoup de points d'accord.
Non, mais de toute façon, c'est le rôle de l'interrogateur.
Oui, parce que sinon, on va s'ennuyer, on va devenir une sorte on va installer la Suisse dans le studio. Mais tiens, ça me fait penser à ça.
Suisse, il ne faut pas croire qu'ils sont d'accord sur tout. La seule chose, c'est qu'ils sont d'accord pour se mettre d'accord quand il y a eu une majorité.
C'est pas le pays de la discorde. Hein.
Non. Ce qui est en France, c'est pas parce qu'on a gagné les élections qu'on a gagné la majorité dans la tête des gens. D'ailleurs, on l'a même pas gagné arithmétiquement avec nos modes de scrutin.
Mais la France reste un pays passionnant, c'est ça que je voulais dire.
Évidemment. S'il s'agit d'originalité, de pittoresque, d'inventivité, je pense qu'on peut difficilement faire mieux.
Être journaliste politique en France, c'était quand même chouette, non, Alain Duhamel
En ce qui concerne les journalistes politiques, il y a le même phénomène qu'en ce qui concerne les hommes politiques. C'est-à-dire que... jusqu'à il y a une trentaine d'années, c'était un peu considéré comme la voie royale dans le journalisme vers lequel il fallait tendre si on en avait la possibilité. Aujourd'hui, je pense que les meilleurs journalistes sont des journalistes économiques. De même que les meilleurs dirigeants sont des dirigeants des groupes privés.
Ça me laisse sans voix parce que c'est vrai.
Mais oui, c'est vrai. Mais bien sûr.
Mais
on ne le dit pas.
Je pensais à l'heure de vérité. Et je me disais quand même, quelle époque, mais quand je parle comme ça, vous allez m'accuser de déclinisme.
je ne vous reprocherai pas d'avoir de bons souvenirs de l'heure de vérité, j'en ai d'assez bons aussi. C'est quand même l'émission politique qui a duré le plus longtemps de l'histoire, 11 années, et c'est la seule émission politique que j'ai inventée de ma vie. Alors donc, la mécanique de l'heure de vérité. Mais pour le reste, je n'ai jamais rien inventé. Mais enfin, j'ai inventé ça.
Et c'était un rendez-vous. C'est là où je veux en venir. C'était un rendez-vous qui était suivi peu ou prou par la nation entière.
Ben oui, il y avait une assez bonne écoute, oui. Et ça avait de l'influence et c'était en plus considéré comme le test pour chaque politique, soit en place, soit aspirant à entrer en place. Mais c'est très bien, mais il y aura d'autres formes qui sortiront.
Mais c'est le monde a aussi changé. Ce n'est pas que la scène politique a changé ou la qualité des politiques. C'est qu'aujourd'hui, l'offre de médias, la façon dont on y accède, a été éclatée. Comment peut-on encore rassembler les gens autour d'un projet commun alors que, vous le dites à plusieurs reprises, on est passé dans un univers numérique avec des marchés de niche, des consommations d'ordre narcissique, plus individualistes. C'est compliqué quand même.
C'est compliqué, mais il ne faut pas croire que ce soit un problème complètement nouveau. Parce que il y a des études qui ont été faites sur les poilus de la guerre de 14-18. Et on s'est aperçu à cette occasion, puisque ça a souvent été l'occasion de se renseigner sur l'état à la fois de santé, d'espérance de vie, de connaissance, d'illettrisme, etc. On s'est aperçu qu'il y avait une proportion très importante de gens qui parlaient encore patois en 1914. Ce qui voulait dire qu'ils avaient un univers qui, avant la guerre, était un univers villageois, cantonal, départemental. Peut-être provincial, attaché à leur province, mais pas au-delà. Et qu'il y avait des Frances. Bon, aujourd'hui, en même temps, il y a une France. S'il se passe quelque chose quelque part en France, toute la France le sait tout de suite, puisqu'il y a l'information continue, et puisqu'il y a la télévision, les réseaux sociaux, etc. Donc il y a toujours eu cette dialectique entre le morcellement et l'unité. Disons simplement que notre particularité, c'était qu'on avait le goût et, à certains moments, le talent de l'unité. Bon, mais que cette unité, elle est aujourd'hui plus contestée qu'elle ne l'a été à d'autres moments. Ce qui ne veut pas dire que dans 10 ans, ça sera la même chose.
Vous me permettez de vous lire un extrait de votre propre livre ?
Pour conclure.
Non, pas pour conclure. C'est pas encore l'heure de conclure, j'espère. Bientôt, oui. Bon, je vous lis quand même cet extrait, même si ce ne sera pas la conclusion. La France est aussi longtemps caractérisée par le respect de l'État, produit français par excellence, avec sa centralisation, son administration et sa bureaucratie. Aujourd'hui, toutes les formes d'autorité sont contestées ouvertement. Le prêtre et l'instituteur ne sont plus les principaux personnages du village. Le médecin et le réparateur de télévision ou l'installateur d'Internet ont pris leur succession. Le citoyen s'est métamorphosé en consommateur compulsif et frustré. Il vivait au rythme des siècles de tradition. Il vibre chaque saison devant les dernières innovations technologiques. Après le catéchisme, la dictée et la récitation, le smartphone de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et bientôt sixième génération. Là où le lien social s'enracinait longuement, l'individualisme s'impose, les Français ne sont plus les mêmes.
Bah, ça, c'est vrai. Ça n'est pas exclusivement français non plus, pour le coup. C'est occidental et c'est même mondial.
C'est mondial.
Bon, ça pose des problèmes, mais en même temps, il y a des formes de communication collective instantanée qui n'existaient pas du tout auparavant. Et autrement dit, chacun a les moyens d'être plus individualiste, mais chacun a la possibilité d'être plus solidaire. Les deux pentes existent, elles sont contradictoires. Et justement, le rôle des politiques, c'est d'arriver à trouver le bon réglage entre les deux.
Entre le consommateur et le citoyen.
Oui, entre l'individualiste et le collectif, entre l'individualiste et le solidaire.
Pour ça, il faudra qu'ils commencent par ne plus être eux-mêmes des produits, parce que c'est ainsi qu'ils sont envisagés, comme des produits un peu jetables, non ?
Oui, enfin, je pense que les Français détestent les hommes politiques en général, mais ne détestent pas les hommes politiques qu'ils connaissent en particulier. Moi, j'ai toujours été frappé sur la différence qu'il y avait entre les politiques, réprobation générale, et mon député ou mon maire, à qui on trouve quand même souvent des qualités.
Pour guérir de ces pathologies, il faut certainement que chacun se prenne un petit peu en main, lise votre ouvrage, se rende compte de ses défauts, c'est un chemin vers la guérison. Je ne vous cache pas qu'en lisant votre livre, à mains égards, souvent, je me suis reconnu. Je me suis dit,
tant mieux.
Je suis râleur, tiens, je suis un peu décliniste, tiens, je pense que c'était mieux avant, tiens, je ne les supporte plus, est-ce que c'est vraiment mérité ? Non, c'est vrai. Mais il faudra aussi des remèdes collectifs, certainement.
Ben oui, mais c'est pour ça que, pour terminer, je dis que quand il y a une phase aussi difficile que celle qu'on traverse, parce qu'on traverse une phase difficile, quand il y a une phase aussi difficile que ça, il faut tenter de trouver des dirigeants, je ne dis pas un dirigeant, je dis des dirigeants qui soient capables d'incarner, de porter, d'expliquer et de prendre des décisions impopulaires. Et que pour mériter d'être populaire, il faut savoir prendre des décisions impopulaires. Et que le meilleur moyen pour prendre des décisions impopulaires, c'est quand même d'avoir un mandat non renouvelable.
Celui-ci n'est malheureusement probablement pas pour cette élection-ci. Espérons que ce sera une des décisions prises et que donc le prochain pourra agir les mains libres et en sachant qu'il ne pourra briguer qu'une popularité posthume comme bien d'autres.
Oui, moi je trouve que c'est très bien la popularité posthume. Et je pense que c'est tout à fait imaginable que sous le prochain quinquennat, on évolue vers un septennat unique. De toute façon, je vous signale qu'il y a quand même déjà plusieurs candidats, ou en tout cas candidats à la candidature, qui disent déjà qu'en ce qui les concerne, c'est pour un mandat et pas pour deux. Bon, c'est un premier pas.
Merci de cette lueur d'espoir dans cet univers politique et cette actualité souvent bien sombre. J'invite nos auditeurs à se reporter à votre ouvrage pour commencer leur cure comme celle que moi j'ai subie en lisant votre livre. On en ressort, comme vous Alain Duhamel, plein de tendresse aussi pour ceux que nous sommes, avec tous nos défauts mais aussi certainement nos qualités, du moins je l'espère. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Les pathologies politiques françaises, c'est chez Plon. Merci beaucoup.
Merci. Thank you.